Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Verset 35 jusqu'au chapitre 2, verset 11. Ça va être deux histoires. Gilles, tu pourrais-tu amener de l'eau, s'il vous plaît? J'ai oublié. Ah, merci, Seigneur, pour ce message de Gilles, Seigneur, qui nous montre comment tu nous aimes. Tu veux qu'il soit plus proche, j'imagine? Je ne le veux pas sur mes oreilles, il tombe tout le temps, la manière qu'on l'a ajusté. Est-ce que tu m'entends bien, Juliane? Dis-moi si tu m'entends bien. Yes, sir. Yes, ma'am. Donc, je vais le mettre peut-être plus proche comme ça, mais je ne vais pas le mettre sur mes oreilles parce qu'il tombe maintenant. OK. Merci, Seigneur, pour le message de Gilles qui nous montre, Seigneur Dieu, que tu nous connais entièrement, tu nous vois, Seigneur Dieu. On est sous ton regard, sous ton radar, mais tu nous aimes, Seigneur Dieu. Et ce que tu as commencé à faire avec nous, Seigneur Dieu, tu veux l'achever pour que ce soit encore meilleur au jour où on va se présenter devant toi. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur Dieu. Puis je te prie que ce matin, Seigneur Dieu, tu puisses nous montrer et que tu nous connais et, Seigneur Dieu, que tu veux nous utiliser dans la grande moisson qui est d'amener plusieurs personnes à la connaissance qui sauve de Jésus-Christ. Amen. Merci, mon frère Gilles. Je vais prendre la manette, puis on va aller directement à notre première acétate. Quand je lis les évangiles, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai tendance à faire une lecture aplatie de l'Écriture. C'est-à-dire que si je pourrais parler de Jésus qui a choisi ses disciples, je vais aller dans Jean, dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, puis je vais aller voir tous les versets qui disent comment Jésus a nommé ses disciples ou comment il les a trouvés. Puis je vais lire dans Luc, par exemple, qui est allé passer une nuit dans la prière, dans la montagne, puis le lendemain, il a choisi les 12 pour les avoir avec lui. Fait que pour moi, qui est en 2020, je pense que ça s'est passé comme overnight. Là. Il a fait comme c'est écrit dans Luc, il a prié, puis le lendemain, il a nommé ses 12. Puis c'est comme s'ils avaient rencontré cette journée-là aussi. Puis en ouvrant l'Écriture d'une manière plus chronologique, on s'aperçoit que c'est de la musique pour nos oreilles. T'sais? Puis on s'aperçoit que c'est un peu comme un accordéon qu'on avait gardé fermé. Que là, on la rouvre, puis on s'aperçoit que, oh, OK, c'est intéressant. L'histoire qu'on va voir aujourd'hui, c'est les 7 premiers jours du ministère de Jésus suite au baptême de Jean-Baptiste, quand que la colombe est descendue des cieux, les 7 jours qui ont suivi. Donc, ça va être un événement chronologique, et on va regarder que Jésus n'a pas trouvé les 12 comme ça. Ça s'est fait sur quelques semaines, voire quelques mois. OK? En tout cas, certainement pas dans les mêmes journées. Donc, ça a réchauffé mon cœur quand j'ai étudié ce sujet-là. Il y a des choses qui ont réchauffé mon cœur. D'abord, Jésus dit à ses disciples à la fin de sa vie, « Allez et faites des nations des disciples, enseignez-leur, tu sais, puis annoncez la bonne nouvelle. » Puis, ce que Jésus demande à ses disciples, il était le premier à le faire. Et Jésus-Christ est un modèle par excellence. Ça m'a réchauffé le cœur de voir qu'il était le premier à faire ce qu'il nous demande de faire. C'est le caporal, le chef d'armée qui marche devant son armée. Et on va voir qu'il a trouvé 5 disciples dans les 2 premiers jours. Et puis, ces disciples-là, motivés par le fait qu'ils venaient de découvrir le Seigneur, André est allé voir son frère, Pierre, qui s'appelait Simon dans ce temps-là. Puis Philippe est allé voir son chum, Nathaniel, disait, hey, viens voir, j'ai trouvé le Seigneur, t'sais. J'ai trouvé le Messie d'Israël. Et donc, on s'aperçoit aussi vite dans cette histoire-là, puis ça m'a encouragé aussi de voir que Nathaniel, il avait des excuses pour ne pas venir, ou tu sais, pour mettre ça de côté un petit peu, tu sais, puis Philippe, il a dit, écoute, viens voir. Tu décideras par toi-même, mais viens voir, puis tu vas voir. Fait que ce qui m'a encouragé là-dedans, c'est que les gens ont la liberté de venir à l'Évangile, ils ne sont pas contraints, puis peuvent ne pas venir. Et plusieurs d'entre nous, on a parlé du Seigneur à nos familles, on a fait le tour pas mal de la question, puis on a souvent dit, viens, vois, explore, lis la Bible par toi-même, tu vas voir, ou viens à mon église, il y a un événement. Tu sais, puis toi, dans ta tête, tu dis, tu savais que l'Évangile était pour être annoncé cette journée-là, tu sais. Ou est-ce qu'on peut ouvrir la Bible ensemble, puis que je puisse te parler un peu de qu'est-ce que Jésus a fait pour toi, viens et vois, tu sais. On l'a fait d'une certaine manière, mais c'est aux gens aussi à dire, ouais, mais OK, je vais venir voir. Je vais explorer, dans le fond, si Jésus-Christ serait le Sauveur. Ce qui m'a encouragé aussi dans ce message-là, c'est que Philippe amène Nathaniel au Seigneur, le Seigneur continue avec lui. Quand André amène Pierre, Jésus continue avec Pierre. Quand Philippe amène Nathaniel, Jésus continue avec Nathaniel. Et lorsque moi, je parle du Seigneur aux membres de ma famille, à mes amis, à ceux qui me sont chers, le Seigneur continue avec eux aussi. Et ça, pour moi, c'était un encouragement en faisant ce message-là. Donc, nous allons passer 7 jours ensemble. Nous allons commencer en Judée, près de Jérusalem, près du Jourdain, là où Jean-Baptiste baptisait. Puis on va parcourir les 7 journées ensemble d'une façon chronologique. Jean-Baptiste se fait interroger. Ça, c'est le jour 1. Ça a déjà eu lieu dans mes messages. On en a déjà parlé. Il se faisait interroger pour se faire demander, « Est-ce que tu es le Messie? » Puis il avait dit, « Non, mais celui qui vient après moi est plus grand que moi, etc. » Donc, il n'avait pas encore baptisé le Seigneur cette journée-là, mais le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Entre les 2 journées, c'est passé qu'il a vu la colombe descendre, il a entendu la voix de celui qui des cieux qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Puis là, il a confirmé, le lendemain, il l'a vu passer, puis il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde » au verset 35. Puis là, un autre lendemain, là, il est le surlendemain, si on peut dire. Donc, le lendemain qui a dit « Voici l'agneau de Dieu », il y a ses deux disciples qui sont là, il y a deux de ses disciples qui sont là, puis il dit « C'est lui le Messie. Suivez-le. » Puis là, les disciples vont quitter Jean-Baptiste, puis ils vont suivre le Seigneur Jésus. Fait que ça, c'est une journée. Puis le lendemain de cette journée, dans le fond, cette journée-là, il va y avoir 2 disciples qui vont quitter Jean-Baptiste puis qui vont suivre Jésus, puis il y en a un autre qui va joindre en cours de route, on va le voir durant le message. Et le lendemain, Jésus dit, on va monter en Galilée. Fait qu'on va passer de Jérusalem, puis on va monter jusqu'en Galilée. Puis va s'ajouter durant le voyage ou au début du voyage, je ne sais pas quand, pendant ces 3 journées, donc ça va être 3 jours de marche. Et il y a 2 autres disciples qui vont s'ajouter durant ce voyage-là, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et finalement, après 3 jours de marche, le 7e jour, il va avoir une noce à Cana. Jésus va être là avec ses disciples, puis Marie, sa mère, est aussi invitée à ce mariage-là. Et ça fait un 7 jours. Jean, dans son évangile, il va faire ça en groupe de 7. Il va faire souvent des 7 jours comme ça. 7 jours ici, 7 jours là, puis il va nous donner une tranche d'histoire. Fait que là, on va en faire une. Ça va être une tranche de 7 jours ensemble. Donc, en cours de route, dans ces 7 journées-là, on va voir que Jésus, quand il rencontre ses premiers disciples, il va dire ou il va faire des choses qui nous étonnent. Puis on va essayer de comprendre ce qu'il fait. Mais il est comme un aimant. Les gens, ils viennent puis ils restent. Les gens, ils collent comme du duct tape. Là, tu sais, tu essaies de décoller puis tu restes toujours collé après la main. Là. Les premiers disciples, tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe qui est fait coller tout de suite. Puis on va voir qu'est-ce qui est arrivé avec ces disciples-là. Je vous lis le verset 35 et 36 qui dit « Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Ces 2 disciples-là, ce sont qui? Ce sont des gens qui probablement, on va apprendre plus tard, qu'au moins un des 2 vivait à Bethsaïda, donc complètement dans le nord. Fait que pourquoi est-ce qu'il était dans ce coin-là? Probablement parce que tout Judée, c'est écrit, tout le monde en Judée venait se faire baptiser par Jean-Baptiste. Fait que c'est certain qu'il devait avoir passé par le baptême de Jean-Baptiste ou était attiré par ce mouvement-là il était de passage. J'ai pas été capable de voir si c'était pendant une fête ou quelque chose, parce qu'il y a des fêtes qui obligeaient les gens en Israël d'aller à Jérusalem. J'ai pas été jusque-là dans mon étude. Mais hier ou avant-hier, il y a une voix qui s'est faite entendre des cieux. Puis cette voix-là a dit, « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et je veux dire, quand tu entends une voix qui vient du ciel, je veux dire, ça doit être le sujet, ça devait être les nouvelles du jour dans le Jérusalem Post de cette journée-là, sûrement. On devait en parler partout, ça devait être quelque chose qui nous avait beaucoup frappé. Donc, ces disciples-là, Jean leur dit, voici l'agneau de Dieu, puis il va les inviter à le suivre. Puis, ils vont commencer à le suivre. Puis il y avait, vous savez, les oiseaux, je ne sais pas si vous avez eu des reportages avec les oiseaux, là, comment que les oiseaux se font la cour, là, tu sais, il y a des danses qui se font, tout ça. Bien, quand un élève voulait devenir, pas dans le sens de faire la cour, mais dans le sens où un élève voulait devenir l'élève d'un rabbin, il y a une danse qui commençait, où ce que l'élève devait aller où ce que le rabbin allait, puis il allait, se tenait, puis il suivait, tu sais, il têtait un peu, tu sais, il faisait son têteux un peu, puis là, bien, là, il allait, puis il écoutait, puis à un moment donné, bien, le rabbin, s'il disait, « Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu cherches? » Fait que si le rabbin posait la question, puis que la personne, l'élève disait, « Bien, c'est où ce que tu demeures, tu sais? » Bien là, il y a une danse qui se faisait, puis si le rabbin disait, « Écoute, j'ai pas de place pour coucher ma tête, j'ai pas, tu sais, pas en voulant dire, je suis plein, là, tu sais, je veux dire, ça arrêtait là, tu sais. » Par contre, s'il disait, viens et vois, et c'est d'ailleurs ce que Jésus a dit, il leur a dit, venez et voyez. Donc, ils ont dit, on aimerait savoir où est-ce que tu demeures. Puis, comment ils se sont, s'y ont pris, c'est qu'ils l'ont suivi jusqu'à temps qu'il leur demande, que cherchez-vous? Et ils ont répondu, rabbin. Quand on appelait quelqu'un rabbin, il y avait les rabbins, il y avait le grand rabbin. Le grand rabbin, c'était Nicodème en est un. Jésus va lui dire, tu es le rabbin, pas un rabbin, tu es le rabbin en Israël et tu ne sais pas ces choses. Un rabbin ou le rabbin, c'était celui qui avait des rabbins, il avait formé des gens rabbins, des maîtres dans l'interprétation de l'Écriture. Ils avaient formé, puis ceux-ci formaient d'autres personnes, puis ils leur donnaient une ordination quand ils avaient appris la Torah. Hein. Donc, il l'appelle rabbin. Quand on appelait rabbin, surtout si nous étions l'élève, c'était un signe de respect en lui disant qu'on écouterait ce qu'il nous enseignerait puis on mettrait en pratique ses écrits, hein, ses enseignements. Et donc, c'était une marque de politesse qu'on rendait à quelqu'un qui avait étudié la Torah, puis qu'on était, surtout si on était sous ce maître-là, on l'appelait comme ça. Et Jésus leur dit, « Venez, voyez. » Et le texte dit, ils ont passé le reste de la journée avec lui. Puis, les deux disciples, beaucoup de choses que je veux dire en peu de mots. Un des deux disciples, on ne sait pas c'est qui, l'autre, on sait que c'est André. Parce que c'est écrit dans le texte que c'était André. Mais l'autre, on pense que c'est Jean, l'auteur de l'Évangile de Jean, l'auteur qu'on est en train de lire. Jean, quand il parle de lui-même dans l'Évangile de Jean, il ne dit jamais Jean. Quand il appelle Jean-Baptiste, il l'appelle Jean parce qu'il n'y a pas d'autre Jean dans l'Évangile de Jean. Fait que Jean, c'est Jean le Baptiste pour Jean. Jean, lui, il va se nommer le disciple que Jésus aimait. Oui, sa mère Salomé n'est pas mentionnée, son frère Jacques n'est pas mentionné, ne mentionne pas les noms. Puis ça ferait du sens. Beaucoup de commentateurs pensent que c'est Jean. Aussi, il dit que quand il a dit « Venez et voyez », il était 4 heures de l'après-midi quand ça s'est passé. Tu sais, c'est comme, il a accès à cette information-là, il se rappelle, il était 4 heures de l'après-midi, puis il va dire « Il était la 10e heure » quand que Jésus leur a dit « Venez et voyez ». Intéressant. Versets 39 et 40, « Venez, leur dit-il, voyez, et ils allèrent, et ils virent où ils demeuraient, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. » André, frère de Simon-Pierre, était l'un de ceux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Donc, André, ça va. Pour Jean, comme je vous disais, je pense que l'autre disciple, ça serait Jean. Là, il l'appelle Simon-Pierre. Jean l'appelle Simon-Pierre, mais... excuse-moi. André s'en va voir son frère. Donc, on se rappelle que... André, c'est un des deux disciples, voilà. Et il va voir son frère, puis il dit, bon, il passe la journée avec le Seigneur, à la demeure du Seigneur. Le Seigneur a à peu près 30 ans à ce moment-là. Sa mère reste encore en Galilée. On ne sait pas s'il y a un appartement, s'il chambre quelque part pour une période de temps, on ne sait pas, mais il les amène à sa demeure, il passe l'après-midi là, la soirée, la journée là. Puis à un certain moment, André, il s'en va voir son frère Pierre, puis il dit, hey, j'ai trouvé le Seigneur, le Messie. Et il va l'amener, c'est ça? Au verset 40, c'est ça qu'il dit. Il dit, Simon-Pierre était l'un de ceux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de ceux qui avaient entendu les paroles de Jean et avaient suivi Jésus. Au verset 42, et il le conduisit vers Jésus. Donc, il en parle, André, il en parle, et l'ayant... Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, et tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Dans la Bible, quand tu vois quelqu'un nommer une autre personne, c'est un signe d'autorité sur cette personne-là. Quand les Juifs ont été déportés, Shadrach, Meshach et Abednego, ce n'était pas leur nom d'origine, ils ont été nommés par le roi. Quand Adam et Ève ont nommé les animaux, c'est un signe de supériorité sur le règne animal. Quand Dieu va dire à Abraham, tu ne seras plus Abraham, mais tu seras Abraham, qui voulait dire Père des vivants, c'est un signe d'autorité sur sa vie. Lorsque Jacob s'est fait nommer Israël par Dieu, c'est un signe d'autorité sur lui. Donc, nommer, c'est un signe d'autorité. Et là, Jésus, déjà, il prend cette autorité-là avec Pierre, puis il dit, Simon, on t'appellera plus Simon, on va t'appeler Simon, on va t'appeler Pierre. C'est pour ça que Jean, il l'appelle Simon-Pierre, pour qu'on sache que c'est la même personne. Puis pour le moment, ça veut dire caillou. Puis pour le moment, on laisse ça dans le tiroir. Jésus ne l'utilisera pas tout de suite, ce nom-là, mais plus tard, Pierre, qui est Simon, il va faire une déclaration. Il va dire que Jésus est le sauveur du monde, il est le Fils de Dieu, puis le Christ, notre sauveur. Tu sais. Puis Jésus va dire caillou. Sur ce rocher, je bâtirai mon Église. Il va l'appeler caillou. Il va l'appeler « Tu es caillou et sur ce massif, je bâtirai mon église. » Et il va utiliser, c'est un caillou, c'était le pétros, c'était une petite pierre qui s'est détachée d'un gros caillou. D'un gros massif. Puis la déclaration que Pierre va faire quand il va l'appeler son Seigneur, Dieu, Jésus-Christ va l'utiliser plus tard. Mais pour le moment, il fait juste dire « Je t'appelle caillou. » C'est tout. Mais il va l'utiliser plus tard. Verset 43. Le lendemain, voyez-vous, il y a souvent le lendemain, hein? Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Et Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Donc, Jésus désire aller en Galilée. Comme je vous montre ici à l'écran, dans le fond, Jérusalem est ici. Bethsaïda est ici. Donc, on a un bon 3 jours de marche qui va s'entreprendre, un voyage qui s'entreprend. Et vous savez, l'histoire, là, on dirait que c'est la première fois que Pierre rencontre Jésus puis qu'il est en train de faire la pêche. Puis là, Jésus dit, jette ton filet à l'autre côté. Bien, c'était dans la mer ici, là. C'était dans cette mer-là, ici. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est le fun de ventiler, parce que là, on rouvre l'accordéon. Puis on s'aperçoit que, oh, OK, il y a du temps qui s'est passé entre le moment où il a cru, il l'a suivi, puis le moment où il a été appelé apôtre par le Seigneur Jésus. Philippe, c'est un gars qui obéit au premier mot. Tu sais, Jésus dit, suis-moi, Philippe le suit. Voilà, c'est réglé pour Philippe. Mais Philippe va être utilisé puissamment pour le Seigneur dans le futur, mais... Pour le moment, Philippe, c'est un gars bien ordinaire qui vient, Jésus dit, suis-moi, puis il le suit. Et là, le texte, Jean, il fait par exprès pour nous dire que André, Pierre, puis Philippe, ils viennent tous de la petite ville qui est ici. Fait qu'ils sont loin de chez eux, sont en voyage, et sont en voyage avec le Seigneur. Et Philippe va bifurquer un peu, on voyageait en caravane, des fois on pouvait être une centaine de personnes à voyager en caravane, donc... En caravane, c'était à pied. C'était des groupes de personnes. On voyage en groupe de personnes. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que là, Jésus est avec eux. Puis André, Pierre, Philippe et sûrement Jean sont avec lui de ce voyage-là. Philippe parle à Nathaniel puis dit « Hey, on a trouvé le Seigneur. » On résume jusqu'à présent, il y a les deux disciples de Jean-Baptiste, dont un est André, l'autre, on pense que c'est... Je propose que ce soit Jean. André en parle à Pierre, qui est Simon, qui est devenu Pierre. Puis là, on part en voyage. Puis là, il y a Philippe qui se joint, puis Philippe en parle à Nathaniel. Ils sont donc des amis. On ne voit pas que ce sont des gens qui ont de liens de parenté. Et Nathanaël est nulle part dans les évangiles synoptiques. Matthieu, Marc, Luc. Les synoptiques, ça veut dire les trois évangiles qui racontent à peu près les mêmes récits, mais de trois regards différents, de trois angles différents. On va les dire syn, ça veut dire ensemble, optique, regard ensemble. Donc, les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc ne parlent pas de Nathanaël, mais ils parlent d'un gars qui s'appelle Bartholomée. Et Jean, lui, ne parle jamais de Bartholomée. Il parle toujours d'un gars qui s'appelle Nathaniel, puis quand Jésus ressuscite, puis qu'ils sont à la pêche, puis les douze sont là, il va nommer Nathaniel et non Bartholomée, tandis que les autres évangiles vont nommer Bartholomée. C'est intéressant de voir que Bartholomée, ça ressemble à un titre, ça veut dire « fils de Ptolémée », un peu comme on dit de Jean, qui était le fils d'un tel, là, tu sais. Quand tu avais deux Jean le Baptiste, celui qui baptise Jean. Puis là, tu aurais eu probablement un gars qui s'appelait Nathaniel Bartholomée, ou Nathaniel le fils de Ptolémée. Donc, c'était plus un titre. Lui, Nathaniel, je trouve que c'est un beau nom, ça veut dire Dieu a donné. Hein? C'est un nom que, Nathanaël, pas Nathaniel. Nous, on l'a appelé Nathaniel, notre fils. Ça veut dire Dieu a donné. Dieu nous a donné un cadeau. Nathaniel, Philippe, il dit « Viens, on a trouvé le Seigneur, il vient de Nazareth. » Puis lui aussi, il vient du Nord, fait qu'il vient de la Galilée, lui aussi. Nathaniel vient de Cana, en fait, là où on va aller au mariage, là, c'est sa ville à lui, ça. Puis, il va dire un dicton qu'on disait dans ce temps-là, « Il peut-tu venir quelque chose de bon de la Galilée? » Parce que en Galilée, si tu allais là, tu étais au nord de la Samarie, il y avait du compromis religieux, tu étais proche des autres nations aussi. Puis on disait, si tu veux être riche et matérialiste, va dans le nord. Si tu veux être spirituel, viens à Jérusalem. C'est un petit peu ça le dicton dans ce temps-là. Et quand on se dispute à un moment donné pour dire, est-ce que Jésus est vraiment le sauveur du monde, le Seigneur qui devait venir, il y en a qui disent, est-ce qu'il peut vraiment venir de là, tu sais, peux-tu venir de Galilée? Puis, fait que là, ça se dispute, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit à Nicodème, « Coudon, es-tu galiléen, toi aussi? Et tu dis, et tu verras qu'il ne sort rien de bon de la Galilée. » Donc, c'était pas juste Nathaniel qui pensait ça. Nathaniel avait cette vision-là lui-même, parce qu'il l'avait entendu. C'était quelque chose qui courait les rues, c'était un dicton. Et puis, Philippe, qu'est-ce que je peux faire pour te convaincre? Viens, vois. Fais juste venir et vois. T'sais. Et c'est ce que Nathaniel va faire et c'est des circonstances vraiment intéressantes. On va passer un petit peu de temps sur cette histoire-là parce que à première vue, tu dis, mais il me semble qu'il n'y a pas rien là. Je ne comprends pas pourquoi il y a un revirement comme ça. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu, et là, il y a un revirement. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Je ne sais pas pour vous, mais si je disais, « Avant que votre épouse dise que vous deviez venir à l'église, je vous ai vu sous le pommier. » Y a-t-il quelque chose là, tu sais, ou sur... Qu'est-ce qu'il y a là? Tu sais, je veux dire, Jésus avait peut-être passé, puis il l'avait juste croisé, puis il l'avait vu. Tu sais, circonstance. Comment se fait que son cœur est complètement touché, puis qu'il dit, Nathanaël répondit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Ben, Jésus lui dit que quand il était sous le figuier, il l'a vu, puis le gars a commencé à croire. Est-ce que ça se pourrait que Jésus lui dise ce à quoi il pensait pendant qu'il était sous le figuier? Si c'est ça, alors ça peut avoir plus d'impact que juste de l'avoir vu sous le figuier. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, on voit la prophétie ou encore une parole de connaissance. C'est une connaissance que seul Dieu a d'un fait qui est intime, que juste la personne connaît, puis qui est mis en plein jour, puis ça vient révéler les pensées du cœur. Dieu va l'utiliser autant dans l'Ancien, plus dans l'Ancien, encore dans le Nouveau, pour interpeller quelqu'un puis lui dire « Hey, je te connais ». Dans Jérémie 15, au verset 15, c'est écrit « Tu sais tout, ô Éternel ». Dieu veut montrer, par exemple, à une personne qui la connaît entièrement. « Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme », psaume 11, verset 4. Le verset de Job tout à l'heure, hein? « Si je pécherais, tu me verrais ». Cette idée que Dieu connaît tout. Et dans le fond, quand ça arrive, ça, une personne sent qu'elle est vue par la fenêtre du jardin. C'est utilisé par Dieu pour révéler parfois une faute, comme par exemple Géasi qui était le serviteur d'Élie, après qu'il y ait eu un miracle, Élisée a refusé d'avoir l'argent. Puis Géasi est retourné après, puis il a dit « Ah, mon serviteur a changé d'idée, puis il voudrait avoir l'argent. » Puis tout ça. Puis quand il revient, Dieu il a tout montré exactement tout ce qui s'était passé sans que Élisée soit là. T'sais. Il lui révèle un secret. Quand Saül est caché dans les bagages, tu sais, pasteur Richard a parlé de Saül dernièrement, justement, puis Saül, Dieu dit à Samuel, il est caché parmi les bagages. T'sais, Dieu va lui donner un secret. Il va lui révéler un secret pour le sortir de là, tu sais. Balaam, le prophète qui était engagé pour maudire Israël, un prophète qui était avare, aimait l'argent, était immoral, il a quand même, au lieu de maudire Israël, il a dit « Je vois un astre, pas maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre va sortir de Jacob. » Et Balaam a vu qu'il y aurait un homme, une étoile, c'était un roi qui allait naître en Juda. Hein? Puis il avait vu son étoile de loin, non de près. C'est pour révéler des choses qui sont cachées. Vous êtes vu par la fenêtre du jardin et vous réalisez que la parole qui vous est dite vous met sur le spot, mais ce n'est pas négatif. C'est Dieu qui dit « Hey, je te connais, tu sais, puis je t'ai vu sous le figuier, tu sais. » Puis Jésus, il connaissait ce qui était dans ses pensées, puis il lui a dit, puis je vais vous le dire pourquoi je crois ça. Puis aussi, c'est ce que Dr. Futterman enseigne aussi. Dans le Nouveau Testament, Paul parle de la prophétie en ce sens-là aussi. Avant que nous ayons le canon des Écritures, il y avait des gens qui parlaient de la part de Dieu pour dire les Écritures aussi. Hein? Donc, ils étaient inspirés par Dieu pour nous donner ces paroles-là. Mais aussi, c'est des prophètes qui annonçaient des sécheresses. On voit ça dans le livre des Actes. Des sécheresses sont annoncées. Des choses qui ne sont pas encore là, qu'on ne voit pas, mais qui vont arriver. Agabus qui va mettre une ceinture autour de Paul, puis il va l'attacher, puis il dit, on va t'attacher comme ça, puis on va t'amener lié à ta mort. Tu sais. Puis Agabus a prophétisé la mort de l'apôtre Paul. Puis, dans 1 Corinthiens 14, ça dit que, dans le fond, si tous prophétisent et que survient quelqu'un, un non-croyant, un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous et les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu, publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Alors, je ne sais pas, moi, il y a une femme qui vient ici, qui donne son témoignage, puis elle dit, quand je suis venu au Seigneur, elle dit, j'ai réalisé en lisant la Bible que mes enfants, c'était mes idoles. Tu sais? Puis là, elle commence à parler de ce qu'elle a découvert dans la Bible. Puis en parlant, il y a une autre madame que c'est exactement cette situation-là qu'elle vit. C'est comme si son secret était révélé, mais la femme qui parle en avant, elle n'a aucune idée de ça, mais elle est juste en train de parler des merveilles du Seigneur, des choses que Dieu a faites dans sa vie. Puis il se trouve que L'autre a dit, Colin, on dirait qu'elle décrit ma vie, on dirait qu'elle est en train de décrire qu'est-ce que je vis. T'sais. Et ça arrive parfois des moments où on parle du Seigneur, puis il y a ces choses-là. Je me rappellerai François qui dit à une jeune fille, tu sais quoi, reporte pas plus tard, tu sais pas, tu pourrais avoir un accident, ça pourrait être grave, puis paf, la fille pogne un accident le soir, tu sais, puis le témoignage a continué le lendemain, je te garantis qu'elle était à l'écoute, tu sais. Ce sont des paroles qui, quand elles viennent, la personne porte attention encore plus au message de l'Évangile parce qu'elle se dit, il n'y a personne qui connaît cet aspect de ma vie-là, mais je vois que je suis connu là ici. Toutes sortes d'histoires. Je parlais à ma femme en m'en venant, c'est comment que... des choses qui sont arrivées dans le passé, puis tu dis, boy, on parle au travers de notre chapeau, tu sais, puis tu dis, ça allait tomber pile pour la personne. Beaucoup de témoignages qu'on peut raconter. Puis donc, Dieu est pas, ces choses-là appartiennent pas au passé nécessairement, c'est des choses qui peuvent encore arriver de nos jours, mais nous, on cherche pas ces choses-là. On édifie les gens, puis à un moment donné, si en édifiant la personne se sent connue par Dieu, puis Dieu nous utilise d'une certaine manière, pour ça, ben gloire à Dieu. La tradition disait que comme tu n'avais pas la Bible écrite, l'Ancien Testament, la Torah, quand tu allais dans la synagogue ou encore au temple, tu allais sous un figuier pour l'apprendre. Tu allais sous le figuier pour la mémoriser. Donc, tu allais au temple ou encore la synagogue, tu essayais de retenir l'histoire. Tu allais sous un figuier, puis c'était prospère. Si tu allais sous un figuier, tu allais prospérer, tu étais capable de mémoriser plus. Tu sais. Fait qu'il y avait cette tradition-là. Donc, c'est pas pour rien ici, le figuier nécessairement. Puis, à quoi est-ce que Nathanaël pensait? Il pensait à Jacob, cet homme qui était un Ishtam dans l'hébreu, quand ça dit qu'il était un homme tranquille vivant sous les tentes. C'est aussi. Le mot « ishtam », le mot « tam » veut dire « tranquille », mais veut dire aussi « intègre ». Quand on décrit Noé, il était intègre au milieu d'une génération impure. Le mot, c'est « tamim », qui est un qualificatif de « intègre » aussi. Puis le frère, Ésaü, est un homme des champs ou un homme violent aussi. Donc, il semble avoir ce parallèle-là qui était mis quand que Dieu décrit Jacob et Ésaü. Mais le point n'est pas là. Le point est que Jésus dit, « Voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. » L'histoire qu'il était en train de lire, c'était l'histoire de quand que Jacob a fraudé sous l'influence de sa mère, mais il a bien fait ce que sa mère a dit de faire. Il l'a fait, c'est qu'il a fait un repas à la place de son frère pour prendre le droit d'aînesse, le droit de bénédiction, que son frère avait bien voulu céder. Donc, il y a une fraude. Là, dites, pourquoi tu dis que c'est ça? Il va le dire, c'est un Israélite. Bon, Jacob était le premier Israélite, c'est lui qui a été nommé Israël. Son nom a été changé. En qui il n'y a point de fraude. Jacob venait de frauder. Il s'est sauvé de son frère et a commencé une fuite qui allait durer 20 années. Puis là, le secret du cœur de Nathanaël est révélé. Et son secret, c'était simplement qu'il méditait sur cette histoire-là. Ce qui nous pousse à penser ça, c'est que, dans le fond, c'est le verset 49 et 50. Je pense qu'on va le voir à l'écran. Nathanaël répondit, lui dit, « Rabbi, tu es le fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. » Parce qu'il a dit, « Sous le figuier, je t'ai vu. » Écoutez bien. Parce que Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et là, il continue. Et il lui dit, « en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Cette vision-là, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? C'est quoi ça vous rappelle, Stéphane? Oui, c'est ça. Jacob avait eu un rêve, puis c'était la nuit qui avait suivi la fraude qu'il avait fait avec le droit d'aînesse avec son père. Donc, la première nuit au désert, Dieu lui dit, il lui donne un rêve qu'il va avoir des anges qui vont monter et descendre, puis c'est Dieu lui promet qu'il va faire des miracles. Dans le fond, ils vont intervenir jusqu'à ce qu'il puisse revenir dans la maison de son père. Puis là, Jésus, c'est là qu'on fait le lien. Là, on dit, OK, bien, d'abord, c'était ça. Là, il est en train de lui parler de... Il lui a dit, tu es un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Jacob avait fraudé. Puis après ça, il continue en disant ça ici. Fait que, c'est parce que Nathanaël, il ne dit pas, « Hey, je pensais à ça sur le figuier. » Fait qu'on est comme un petit peu comme... on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là. Ça fait du sens ici que l'histoire continue. Donc, contrairement à Jacob, Nathanaël, lui, n'avait pas de fraude dans son cœur. Puis, super. Après 3 jours de marche, on arrive dans la ville de Nathanaël, la ville de Cana, et Marie, sa mère et Jésus sont invités avec les disciples au mariage. Donc, on arrive aux noces de Cana, et ça va être un des 7 miracles de Jean. Donc, Jean va présenter 7 miracles dans l'Évangile de Jean, et ça va être son premier miracle. Il n'en montrera pas plus, mais il va dire, moi, là, Jean, quand j'écris l'Évangile de Jean, il va dire ceci. Il va dire, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Le but de Jean, il va mettre 7 miracles, c'est suffisant pour lui, mais ces 7 miracles-là vont montrer quelque chose à propos de que Jésus-Christ y est le Fils de Dieu, puis qu'on puisse avoir la vie en son nom. C'est pour ça qu'on dit aux gens, lisez l'Évangile de Jean, commencez dans votre recherche avec Dieu, lisez l'Évangile de Jean. Pourquoi? Parce que les gens qui vont lire vont comprendre et croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est une des raisons pourquoi, je pense, beaucoup de ministères vont dire, quand vous évangélisez, encouragez les gens à lire l'Évangile de Jean. Un mariage juif, comment ça durait de temps? Ça durait 7 jours. Une journée, c'était la cérémonie avec les plus intimes, puis les six autres jours, donc la cérémonie, la suite de la journée du premier jour, pendant 7 jours, il y avait le banquet. Donc, c'était la festoyade, c'est la bouffe, c'est la famille débarque, les amis débarquent, puis on reste là, on festoie pendant 7 journées. Et là, durant cette fête-là, qu'est-ce qui se passe? Il manque de vin. Il ne faut pas qu'il manque de vin. Vin, symbole de joie dans le psaume 104. Quand tu en bois assez pour rire un peu pour rien, mais pas trop pour ne pas t'enivrer, la Bible ne dit pas que c'est mauvais. Elle dit que si un homme va à l'enivrement, bien, il est mieux de s'en abstenir complètement. Donc, une personne peut choisir de dire, « Moi, là, c'est-tu quoi? Je ne touche pas à une goutte d'alcool parce que ça m'amène à l'enivrement. » Puis l'enivrement, quand on perd contrôle de sa personne, c'est un péché. Mais le vin réjouit le cœur de l'homme, puis elle représente la joie dans la Bible. Donc, c'est pas un péché en soi. C'était pas du jus de raisin, c'était du vin. Il y a un autre mot en grec puis en araméen pour le jus de raisin ou le jus, puis c'est pas ce qui est utilisé. C'est vraiment du jus de raisin fermenté. C'est vraiment du vin. Puis là, il va se passer une interaction entre Jésus et sa mère. Sa mère va lui demander de faire quelque chose parce qu'il manque du vin. Puis on voit qu'elle a pas mal du power parce que c'est elle qui dit au serviteur de faire qu'est-ce qu'il dit après. Fait que je sais pas si c'était amie de la mariée ou je sais pas. Qu'est-ce qu'elle avait comme rôle cette journée-là? Mais Marie est invitée et Jésus arrive de voyage, puis il vient avec ses disciples parce qu'il a été lui aussi invité. Et Jésus répond à sa mère d'une manière qui nous étonne. Il y a 2 étapes dans le cœur de Marie puis dans le cœur de cette maman-là qu'elle doit franchir. La première, c'est qu'elle doit franchir une étape en tant que mère et avec un fils de 30 ans. Elle doit franchir cette étape-là. Puis l'autre, c'est qu'elle a un rôle de servante qu'elle doit apprendre à prendre, puis qu'elle n'a jamais eu. Elle n'a pas été confrontée à ça jusqu'à aujourd'hui, mais là, elle est confrontée. Donc, il va y avoir une confrontation entre Jésus et sa maman. Premièrement, dans son rôle de mère, Jésus a 30 ans, Puis Jésus doit à sa mère honneur, mais ne lui doit plus obéissance en toute chose. C'est difficile pour une maman et un papa, pour l'avoir vécu, c'est difficile de voir ton enfant qui s'affirme à être lui-même un adulte et prendre ou ne pas prendre ce que tu lui as appris. Il s'affirme comme un adulte. La Bible a dit « L'homme et la femme quitteront son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Hein? » L'homme va quitter ses parents, puis il va s'attacher à sa femme. Puis nous, on a besoin de faire un petit pas en arrière quand ça arrive, quand que le jeune il passe d'enfant à adulte, puis qu'il dit « Moi, c'est pas comme ça que je le ferai, ou c'est pas comme ça que je vais le faire. » Et moi, ça l'a pris le départ de la maison, puis le retour pour faire la... dire « OK, Nathaniel ou Kayla, quand ils viennent sous mon toit, maintenant, j'ai plus un rôle d'enseignant, j'ai un rôle de conseiller s'ils veulent de mes conseils. » Même pour ce qui est de mes conseils, s'ils veulent. C'est des adultes maintenant. J'ai fait mon rôle d'éducation, puis Marie, elle avait besoin de passer à ça. Et quand ce lien-là n'est pas brisé, eh bien, ça a besoin d'un remède qui est un peu plus drastique, un petit peu, tu sais. Des fois, ça va être une réponse comme « Mêle-toi donc tes affaires » ou des choses comme ça. T'sais. Bon, Jésus n'a pas répondu comme ça du tout à sa mère. Mais dans le rôle de mère, Marie, elle devait comprendre que Jésus, lui, il lui devait pas obéissance en toute chose, même s'il fallait qu'elle voulait qu'il fasse quelque chose, même s'il a quand même fait quelque chose cette journée-là. Donc, dans le rôle de mère, il y a ça. Puis on va regarder ce qu'il lui a dit. Mais juste avant, deuxièmement, dans son rôle de servante du Seigneur, le fils de Marie était son Seigneur et son Dieu. Ça, elle n'a jamais été confrontée à ça. Un petit peu. Quand il avait 13 ans, elle disait « Hey, ton père puis moi, on te cherchait. » Puis Jésus dit « Ben voyons, je suis en train de faire les choses de mon père. » Là, il l'a un peu confronté en lui disant que son vrai père, c'était Dieu, tu sais. Et c'était pas Joseph. Tu sais. Mais... C'est la première fois que c'est plus radical un petit peu. Elle lui demande de faire quelque chose, puis son fils, c'est son Seigneur, puis elle, c'est sa servante. Puis ça, c'est tout nouveau pour Marie. Et elle doit transitionner de mère à servante, et c'est un gros pas à franchir pour Marie, parce que justement, elle a besoin de savoir que c'est lui qui va lui donner des ordres, puis c'est elle qui va devoir lui obéir. T'sais. Donc, le propos qu'il lui dit, c'est, Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi, moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » On lit ce texte-là, moi je lis ce texte-là, puis je me dis, j'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Premièrement, le mot « femme » utilisé dans Jean l'utilise à quelques reprises pour de manière affectueuse que Jésus va adresser des femmes. Marie de Magdala est dans le jardin, le Seigneur est mort, elle est toute triste, puis elle cherche le corps, puis elle le trouve pas, puis elle est toute triste. Puis Jésus est là, puis il lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? » Puis là, elle ne le reconnaît pas tout de suite. Puis après ça, il l'appelle par son prénom, puis là, elle dit « Rabouni ». Elle l'appelle « Maître », tu sais, puis là, elle le reconnaît. Mais la première fois, il lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? » Ou encore sur la croix, ça c'était dans Jean 20-25, dans Jean 19-26, quand que Marie est à la croix, puis que Jésus il dit aux disciples que Jésus aimait, parce que Jean il ne nomme jamais son nom dans l'Évangile, il dit « Fils, voici ta mère. Femme, voici ton fils. » Puis il lui dit « Voici ta mère. » Puis c'est écrit ce jour-là, il l'a pris avec elle, puis elle fut sa mère. Jésus, en l'appelant femme et non pas maman, il est en train de sevrer une relation qui est faite juste pour la terre. C'est-à-dire qu'elle va durer juste un moment, cette relation-là. Nos enfants ne seront plus nos enfants au ciel. Ils nous ont été prêtés. Là. C'est nos frères et nos sœurs dans le Seigneur s'ils ont accepté le Seigneur. T'sais, on a une nouvelle relation avec eux. Mais on n'est plus leurs parents au ciel. Et de la même manière, Jésus, il est en train de dire à Marie, il l'appelle femme pour ne pas mélanger les cartes. Parce que là, il s'en va, il va être avec le Père aux cieux. Son femme, voici ton fils, voici ta mère. En tant que fils, Jésus peut l'appeler maman, mais en tant que son Seigneur, il peut l'appeler femme. Il n'y a pas de problème à ce que Jésus appelle sa mère femme. Et puis, je suis sûr que ça ne sort pas comme nous autres, « Hey, la femme! » Je ne pense pas que c'est ça comme ça que ça sort, tu sais. Donc, en tant que mère, elle peut l'appeler son fils, mais en tant que servante, elle doit l'appeler son Seigneur. Il y a une division dans son cœur qui doit se faire entre « c'est beau, j'ai eu Dieu en moi, là, mais ce Dieu-là, c'est mon Dieu aussi. Hein? Puis, je suis sa servante. » Et là, Jésus va lui dire « qu'y a-t-il entre toi et moi? » J'ai cherché ça dans la Bible pour trouver 5 ou 6 exemples. Et quand c'est dit en contexte de guerre, quand on est en guerre, quand Élie rentre chez la femme, que son fils est mort, puis il dit « t'es-tu venu pour me juger, puis que mon fils il soit puni à cause de mes péchés, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? » Tu sais? De désaccord, de deux rois qui ne s'entendent pas, il y a qu'y a-t-il entre toi et moi? Et même de possession démoniaque, quand que le possédé de Gadara a dit « qu'y a-t-il entre moi et toi, fils de Dieu? Est-ce que tu es venu pour nous perdre avant notre temps? » Et donc, j'avais besoin de comprendre, je disais, je lâche pas cet hébraïsme-là, tant que je ne l'ai pas totalement comme essayé de comprendre un petit peu mieux. Là. Puis en hébreu, c'est... autant dans l'hébreu que dans le grec, c'est repris dans le grec, mais c'est « quoi de toi à moi? » Puis, dans le fond, ce qui est, Jésus dit à sa mère ici, c'est qu'il n'y a pas rien de commun entre toi et moi pour l'heure à laquelle je dois paraître. L'heure, mon heure n'est pas venue. À chaque fois que Jésus parle de son heure dans les évangiles, c'est pour parler de sa mort prochaine. Mais dans ce contexte-là, je pense, puis c'est ce que je lis aussi dans d'Ariel, le ministère Ariel, dit que ça serait plus un contexte qui s'apprêterait au fait que Jésus veut d'abord faire ses miracles en public à Jérusalem, en Samarie, en Galilée et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il veut suivre un ordre dans lequel il va faire. Puis sa mère, elle n'a pas un mot à dire. C'est dur, hein? Elle n'a pas son mot à dire sur la mission du Seigneur en tant que maître de l'univers, puis en tant que sauveur du monde. Ça, c'est son père, puis lui. C'est comme s'il disait, « Marie, t'es pas invitée à cette table-là. » Hein? C'est dur, hein? Si vous appelez, je sais pas, Julienne, puis que votre mère s'appelle Adrienne, puis que vous en avez 40, elle en a 65, puis qu'elle vous dit, « Hey, tu devrais pas éduquer tes enfants comme ça, puis tes enfants sont rendus à 20 ans. » C'est quoi le problème? C'est que toi, en tant que Julienne, ton rôle d'éducatrice est terminé, tu es rendue une conseillère, tu peux encore te donner des conseils, tout ça. Mais Adrienne, elle a un problème, c'est qu'elle veut que tu corriges ton enfant, c'est comme si c'était encore mineur. Fait que là, Julienne, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse, Julienne, la maman de 40 ans? Il faut dire qu'elle dise à sa mère qu'elle n'a pas rapport dans ça. Elle-même ou la grand-mère, c'est dur à faire, ça? Fait que, ou encore, je ne sais pas, ta belle-mère veut décider, ta mère veut décider de la couleur des murs chez vous. Puis là, vous avez 25, 30 ans. Soit tu la laisses parler, soit tu dis, écoutez, moi puis Stéphanie, dans le fond, on a décidé que ça ne serait pas cette couleur-là. Merci pour ta suggestion. C'est comme si on disait, tu n'as plus d'affaires dans cette table-là. C'est dur à faire, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire, on a besoin de le faire. Puis ici, Jésus, c'était nécessaire pour elle qu'il le fasse. Il lui dit qu'il n'y a rien à voir, elle n'a rien à voir dans cette discussion-là de quand il fera ses miracles, tout ça. OK? Mais Jésus l'a honoré. Il l'a honoré tout le temps, mais elle a été blessée immensément. Tout au long de sa vie, elle a été blessée, Marie. À un moment donné, elle veut rentrer à une place, puis Jésus est en train d'enseigner, puis il y a une foule, là, c'est bondé à craquer, puis les disciples disent, hey, ta mère, puis tes frères, ils sont là. Puis ils veulent te voir. Je dis, c'est qui ma mère? C'est qui mes frères? Tu t'imagines-tu la blessure dans le cœur de Marie si elle l'a entendu ou si elle le s'est fait entendre dire que Jésus dit « C'est qui ma mère? C'est qui mes frères? » Puis dans Jean 7, c'est écrit que ses frères ne croyaient même pas en lui. Fait que quand c'est arrivé, ses frères, ils étaient juste envieux de sa popularité. Fait qu'ils veulent comme rentrer, tu sais. Ils veulent avoir une place en avant. Ou... Jésus va leur répondre ceci. « Qui est ma mère? Qui est... Qui sont mes frères? Ce sont ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique. » Donc, est-ce que je suis leur rabbin? Est-ce que je suis leur enseignant? Est-ce que je suis leur maître? Donc, mon frère, ma mère, ce sont ceux qui écoutent la parole puis qui la mettent en pratique. C'est quelque chose, hein? Puis il dit que... Ben en a parlé la semaine passée, mais il y a une prophétie qui a été donnée, hein, de, je pense que c'est Siméon, puis il a dit qu'il va être celui qui va susciter un grand émerveillement dans Israël, mais une épée te transpercera l'âme. Puis Marie, elle devait être transpercée de voir que, d'une certaine manière, son fils, oui, allait mourir à la croix, elle était au pied de la croix, elle a été transpercée, mais je pense qu'à chaque fois qu'il y a un petit peu d'une partie d'elle qui devait souffrir, comme dans cette situation-là, ou quand Jésus dit « C'est qui ma mère? » C'est elle qui fait la volonté de Dieu, tu sais, qui écoute les paroles. Tu sais. Donc, être ami ou un frère de Jésus, ça ne pouvait rien faire. On n'était pas sauvé à cause de ça. J'étais bien beau avoir été honoré, mais Marie, elle ne pouvait pas être sauvée à cause de ça. Être ami avec quelqu'un qui a une relation avec Dieu, ça ne fait pas de moi non plus quelqu'un qui est un serviteur de Dieu. Être le fils d'un grand prédicateur, ça ne change rien. Ça ne change rien pantoute. Je ne serai pas sauvé pour autant. Et viens et vois. Chacun a besoin de faire comme Nathaniel, puis dire, c'est-tu quoi, je vais aller voir par moi-même, puis je vais croire moi aussi à lui. En guise de conclusion, le miracle de changer de l'eau en vin, ça a été un miracle quand même qui a honoré sa mère, tu sais. Mais il ne l'a pas fait en public, il l'a fait en secret. Ça a été caché. Pourquoi? Ce n'était pas son temps encore de paraître publiquement. Donc, il a dit, faites juste remplir les vases qui servaient à la purification. On parle de 26 litres, donc c'est un petit peu plus que les bouteilles là, qu'on a, là, des machines à eau. Là. Un petit peu plus gros, en pierre. Ça servait pour la purification des mains. On dit, faites juste mettre de l'eau. Puis l'eau, quand ils l'ont versée après ça, dans les quand ils allaient puiser avec les carafes, c'était du vin. Puis c'est un miracle créateur. Jésus, premier miracle, qui nous montre qu'il est prêt à prendre la matière puis la transformer en quelque chose d'autre. Donc, c'est un miracle de création. Jésus, le Créateur, transforme l'eau en vin. Mais il y a un symbole quand même, symbole de joie. Puis, contrairement à l'ancienne alliance, c'est un vin qui va demeurer bon jusqu'à la fin. Dans un mariage, qu'est-ce qu'on faisait? On servait le bon vin premièrement, puis quand que tout le monde s'en rendait plus compte, parce que leur papille avait été dilatée ou je ne sais pas quoi, là, quand que tu n'avais plus le goût pour ça, là, on te donnait de la... On passait la piquette, tu sais. Puis dans ce mariage-là, le vin a été bon jusqu'à la fin, tu sais. Puis le gars qui s'occupe des waiters puis de tout le monde, il dit, écoute, il est allé voir l'époux, puis il a dit, crime, t'as gardé le vin, le bon vin, jusqu'à la fin. Et ça, c'est la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, on commence avec la joie. Hey, on va obéir à la loi, on va obéir à la loi. Désobéissance. On va obéir à la loi, on va obéir à la loi. Désobéissance, désobéissance, désobéissance. On n'est pas capable d'oublier la loi. C'est une alliance de joie au départ, mais de la piquette à la fin. La grâce, c'est quoi? Il a fait quelque chose pour vous, hein? Puis ça va rester bon jusqu'à la fin. Puis on va devenir de plus en plus comme Christ, plus qu'on va avancer à cause de cette grâce-là. Donc, j'espère que ça vous a rafraîchi, que ça vous a édifié ce message-là sur les premiers disciples. Premier miracle, puis on va prier ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur Dieu, qui nous montre, Seigneur Dieu, que tu nous aimes chacun individuellement, Seigneur Dieu, puis que tu nous as donné une grande commission, celle de partager l'Évangile, celle d'inviter les gens à te suivre. Mais à un certain moment, ces gens-là qu'on a invités, c'était à eux de dire, écoute, je vais examiner par moi-même, je veux voir moi-même si c'est vrai. Puis là, tu vas commencer à te manifester en eux. Puis nous, on va prier pour ces gens-là qu'on évangélise parce que on réalise que nous, on peut faire juste un petit bout pour eux, mais... Toi, tu peux les renommer, tu peux leur dire des choses secrètes qu'il y a juste toi qui connais d'eux. Tu peux faire des miracles, Seigneur Dieu, dans leur vie. Puis ils peuvent tranquillement découvrir que c'est plus parce qu'on leur en a parlé qu'ils te connaissent, mais parce qu'ils sont entrés dans une vraie relation avec toi. même si on ne le fait pas souvent ou qu'on n'a pas pris les occasions de le faire, Seigneur Dieu, je te prie qu'on puisse réaliser que le Maître est un bon exemple. André et Philippe sont des bons exemples d'avoir entendu puis d'en parler. Aide-nous, Seigneur, à être des témoins fidèles de toi. Puis aide-nous à réaliser que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde pour continuer avec ceux qu'on a parlé du Seigneur. Merci pour ce miracle de la transformation du vin, Seigneur, qui nous montre, Seigneur Dieu, que ça a commencé par tes œuvres et ça finit par ton œuvre en nous. Et contrairement, Seigneur Dieu, à la loi qui nous amène à un échec puis à une tristesse, le vin nouveau, la nouvelle alliance, c'est quelque chose qui s'en va de grandissant en grandissant à cause de ta grâce que tu as manifestée à la croix. Si quelqu'un ne connaît pas le Seigneur puis écoute cet enregistrement-là, Jésus-Christ t'aime tellement qu'il est venu sur la terre comme un homme. Il a accompli toute la loi. Ce que nous devions faire, il l'a fait. Et comme nous avons péché, Christ, Jésus-Christ, a payé la dette de nos péchés. Il a ressuscité des morts le troisième jour. Puis il nous offre la vie éternelle. La seule chose qu'on a besoin de faire, c'est de reconnaître qu'on a besoin de ce pardon-là et accepter la transaction qui a eu lieu à la croix. Tes péchés sur lui, sa justice sur toi. Un échange si tu l'acceptes. C'est à toi de venir et de voir. Approche-toi de Dieu, lis la Bible,